side. L'homme ensemble, c'est possible maintenant. L'amour, le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les erreurs du passé. Il y a tellement de bonnes choses à partager. L'homme ensemble.
De la paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Didier Blé.
Excellent réveil à tous. Merci de nous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'édition de 7 heures. Le PPACI, ses militants et sympathisants ont investi la ville de la Beauville ce samedi pour la deuxième édition de la fête de la Renaissance. Son président Laurent Gbagbo s'est exprimé sur divers sujets de la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire. La vague de chaleur inquiète dans notre pays, vague de chaleur qui continue et qui inquiète dans le nord, précisément à Odienné. Cette canicule est difficilement ressentie par les populations et notre correspondant Bakary Touré Labas nous en parlera. En page africaine au Rwanda, le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Gwisozi hier dimanche pour lancer les commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsis avant la cérémonie officielle. Nous aurons la revue des titres avec Francis Cassis et puis dernier temps fort de ce journal, l'invité de la rédaction. Ce lundi, le député Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, interrogé par Constant Maïlé. Il évoquera la question des retombées sur les producteurs ivoiriens, de la hausse spectaculaire du prix du kilogramme de cacao sur le marché international. Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. La ville d'Agboville, située dans la région de la Niébitiassa, a abrité le samedi 6 avril 2024 la deuxième édition de la fête de la Renaissance, initiée depuis l'année dernière par le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI. À l'occasion de cette deuxième édition dédiée à la femme, Laurent Gbagbo, président du PPACI, tout en soulignant les progrès réalisés, a relevé les défis restants et souhaité aussi une réforme de la commission électorale indépendante actuelle. On l'écoute.
Beaucoup de progrès ont été faits dans le problème des femmes. Aujourd'hui, vous voyez les femmes ministres, les femmes directrices. Donc, il y a eu des progrès. Mais est-ce que ces progrès-là suffisent? Il faut d'abord donner aux filles les moyens d'avoir un travail. C'est-à-dire les mettre à l'école. Qu'elles aillent à l'école, non pas seulement pour être ministre, mais pour qu'elles aient la formation, pour qu'elles aient la connaissance. Deuxièmement, il faut que des lois soient votées qui ne discriminent pas les femmes. Sur la CEI, je crois qu'il y a une grande erreur de tous les militants de gauche africaine. C'est sur le mot indépendant qu'il y a le problème. Cette CEI-là, elle ne marche pas. Donc il faut réfléchir de nouveau et faire en sorte que les CEI soient réellement indépendants. Soient indépendants du pouvoir et soient indépendants de tout parti politique.
Vous écoutiez Laurent Gbagbo, président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, qui se prononçait sur la promotion des droits de la femme et la commission électorale indépendante. C'était lors de la deuxième édition de la fête de la Renaissance qui a eu lieu le samedi 6 avril à Agboville. Hiroshi Matano, vice-président exécutif de l'Agence multilatérale des garanties des investissements de la Banque mondiale, en visite en Côte d'Ivoire, était sur les chantiers du corridor du bus rapide transit Yopougon-Bengerville, vendredi 5 avril 2024. Il y était pour s'enquérir de l'état d'avancement du PMUA. Les détails avec vous, Jean-Mélène Bitti.
Lors de cette visite de terrain, Kwaku Kwaku Romain, directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan Amuga, par ailleurs coordonnateur du projet de mobilité urbaine d'Abidjan PMUA, est revenu sur le démarrage des travaux et les différents acquis lorsqu'il sera mis en marche.
Le BMP va véritablement démarrer ses travaux à partir de la fin avril. C'est sur 20 km, 28 stations, qui ça va permettre de rallier très rapidement le Pougon. Ben, j'ai vu, on va rallier en 45 minutes, alors qu'aujourd'hui on le fait en 3 heures du temps. Au-delà du temps qu'on va gagner, on va économiser près de 100 000 CO2 à l'horizon 2030.
Hiroshima Matano, vice-président exécutif de la MIGA, se dit satisfait de l'état d'avancement de ce projet qui va améliorer l'accessibilité aux opportunités économiques et sociales dans le Grand Abidjan.
La région du Grand Abidjan contribue à environ 80% du PIB ivoirien. Un transport sûr, fiable et durable débloque la croissance économique en facilitant un meilleur accès au marché de l'emploi ainsi qu'aux services économiques et sociaux. Ce transport électrique réduira considérablement la congestion, les embouteillages, la pollution de l'air tout en réduisant les émissions à gaz à effet de serre, ce qui est conforme avec nos engagements climatiques. Le projet de BRT, nous sommes très satisfaits de pouvoir le soutenir dans la construction d'infrastructures durables pour une croissance résiliente.
Le projet est cofinancé à hauteur de 316,566 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et le secteur privé.
Les producteurs de cacao sont invités à planter des arbres dans leurs vergers afin d'en assurer la durabilité. Bientôt, une campagne se déroulera et concernera les zones de production. L'information a été donnée récemment par le délégué régional du Conseil Café Cacao lors d'une mission de Radio de la Paix à Bengrou. On écoute Kounan Kwaku.
C'est vrai que c'est pas toujours que nous faisons de la publicité, mais nos actions sont vraiment partantes sur le terrain. Nous voudrions donc encourager les producteurs à s'inscrire dans tous les programmes que l'État initie en faveur des producteurs. Il s'agit notamment, et très bientôt, de la mise en œuvre de la norme ARS 1000 pour le cacao durable et traçable. Cela aura des implications, notamment l'agroforesterie. Donc le producteur sera amené à planter des arbres dans sa parcelle. Cette année, il y a eu une longue sécheresse. Les parcelles agroforestières ont résisté, mais celles qui n'ont pas connu l'agroforesterie en ont souffert. Ce sont des programmes qui seront développés et bientôt nous serons encore sur le terrain pour passer le message et nous invitons les producteurs à prêter une attention particulière au message du Conseil du Café Cacao, qui est un message de l'État de Côte d'Ivoire.
Voilà, c'est Kounan Kwaku, délégué régional du Conseil Café Cacao au niveau d'Abengrou. Promotion de l'égalité hommes et femmes en entreprise, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et le réseau africain des ressources humaines ont signé jeudi dernier une convention de partenariat au siège de la chaire UNESCO aussi à Cocody. Sur les raisons et objectifs de la signature de cette convention, écoutons Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision.
C'était surtout d'abord pour promouvoir les outils développé par la chaire UNESCO en matière de genre auprès des entreprises publiques et privées. La chaire UNESCO a développé des outils comme la formation plaidoyer en genre et développement durable ou en genre et performance, les séminaires de formation en privé, le label genre et compétitivité des entreprises et les formations à la carte. Toutes ces formations-là doivent être développées auprès des entreprises. C'est vraiment pour avoir des entreprises plus performantes, plus compétitives et plus équitables.
Est-ce que ce partenariat vise aussi une égalité homme-femme quant aux chances d'accès au marché de l'emploi?
Oui. Vous savez que le genre est une approche qui vise à corriger les inégalités sociales, économiques, politiques, en termes d'emploi, d'éducation, entre les hommes et les femmes. Et le genre permet de relever tout ce qui est injustice, discrimination au sein des entreprises que les DG même ne voient pas, ou même les gestionnaires des ressources humaines ne voient pas. Mais quand on va leur donner nos outils, eux-mêmes verront ces inégalités et puis ils vont les corriger.
C'était donc Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, coordonnatrice du programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire et conseillère spéciale du Premier ministre chargée du genre. Parlant de climat dans cette édition, depuis un peu plus d'une semaine, la température au niveau de Djéné oscille entre 38 et 40 degrés Celsius. Cette canicule est difficilement ressentie par les populations de la capitale de la région du Kabadougou, musulmans pour la plupart. Face à cet enjeu, les Odjenekas ne savent pas à quel saint se vouer en cette période de jeûne du Ramadan. On en sait un peu plus avec vous, Bakary Touré-Labas.
La ville de Djéné est présentement frappée par une vague de chaleur, une situation presque insoutenable en cette période où les fidèles musulmans observent le jeûne du Ramadan. Visiblement affaiblé et dissimulé à l'homme d'un gros manguier, Touré Ismaël, tout trempé, rapporte. J'hygiène. Dans la chaleur, là, j'hygiène. Sincèrement, il fait chaud. C'est pas facile. Est-ce qu'un thé a également Bamba Kramogo, que nous avons trouvé couché à même le sol sous un apatam, après la prière des 13 heures?
Seulement, vraiment, je suis couché là.
Ouais, mais vraiment, c'est le carême qui bouge sur moi. Il fait chaud. Il fait chaud.
Même son de cloche de la part de Tourezico.
Dans la Yansnère, était mort quand t'es qu'à Nambado, Allah le Koson. Allah en a mignon, vraiment.
Nous n'avons jamais vécu une telle chaleur dans la ville de Djéné. Que Dieu nous en préserve à l'avenir. Si ce n'est pas pour la crainte de Dieu, normalement, on ne devait pas jeûner cette année.
Parlons de ses géniteurs, il précise.
Ma maman ne gêne pas, pour cause de santé. Sinon, mon père, lui, il gêne, malgré ses 90 ans.
À l'endroit des personnes âgées qui, du reste, constituent des sujets à risque, ces spécialistes conseillent.
Docteur Koulibaly Katia-Hassen, chef de service de l'action sanitaire, nous avons constaté une hausse des températures ces temps-ci, en moyenne 39-40 degrés, et les fortes chaleurs sont nocives pour l'organisme humain. Chez les personnes âgées, nous constatons qu'elles font beaucoup de maladies métaboliques. Donc ces personnes doivent s'abstenir du jeûner.
Bakary Touré-Labbas, au jeûner, Radio de la Paix.
Merci à vous, Bakary Touré-Labbas, pour cet élément. Il faut juste tenir encore quelques heures. Culture, la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan a été officiellement lancée ce jeudi 5 avril 2024 lors d'une conférence de presse au Palais de la Culture de Trècheville. Au cours de cette conférence, les objectifs et grands axes de ce programme de développement culturel visant à célébrer la richesse et la diversité des expressions artistiques africaines ont été présentés. Suivons pour l'occasion le directeur général du MASA, Abdrahmane Kanaté.
Le MASA 2024 marquera la 13e édition de cette manifestation, 30 ans. Nous avons aujourd'hui un comité de 21 experts qui ont planché sur les 2500 dossiers de candidature que nous avons reçus pour le MASA. Au-delà donc de la qualité, non seulement de la sélection, mais aussi de la qualité des experts qui ont planché donc sur les 2500 candidatures reçues, nous avons l'honneur de recevoir pour cette année le Rwanda comme pays invité d'honneur et un pays invité spécial qui est la Corée. Nous avons ce que nous appelons des sites fixes, le Palais de la Culture à Trècheville, le Yelams, nous avons l'Institut français, nous avons l'Institut Goethe, la place Inch'Allah à Kumasi, la place Figayo à Yopougon, le centre culturel d'Abobo. Au-delà de ces lieux que je viens de citer, nous aurons ce que nous appelons de la déambulation dans un certain nombre de communes. La mascotte du MASA se déplacera. La programmation du MASA ira vers les Ivoiriens. Nous aurons la musique, la danse, le théâtre, le cirque et les arts de la rue, l'humour et le slam.
Voilà, c'était donc Abdrahmane Kanaté, le directeur général du MASA. En page africaine, 30 ans du génocide des Tutsis, le Rwanda commémore un passé dont il faut tirer la leçon. Le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Gwizozi au matin de ce dimanche 7 avril pour lancer la commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Avant la cérémonie officielle, le génocide a fait au moins 800 000 morts. Aujourd'hui, nos cœurs sont remplis à mesure égale par la tristesse et la reconnaissance. Et nous nous souvenons de nos morts, mais nous sommes aussi heureux de voir ce que le Rwanda a pu devenir, a déclaré le président Paul Kagame au cours de son allocution. Sans transition, nous retrouvons pour la revue des titres Francis Cassi. Francis, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. L'intervention de Laurent Gbagbo ce samedi à la 2e édition de la fête de la renaissance du PPACI à Beauville intéresse beaucoup les unes de vos journaux de ce lundi. Et c'est par ce sujet que nous ouvrons leur revue des titres. Laurent Gbagbo, je vais compétir, on sait qui a braqué la BCAO. Titre à ce propos, la voix originale. Ainsi que le temps disant, prétendu braquage de la BCAO, la bombe qui va rétablir la vérité. Ce qui fait écrire Soir Info ceci. Fête de la Renaissance à Beauville, Gbagbo lance un grand défi au pouvoir. Quand, pour le bélier intrépide, fête de la Renaissance à Beauville, Laurent Gbagbo règle ses comptes. Avant que, à cet effet, la nouvelle alliance, pour sa part, ne barre ainsi sa une. Affaire braquage de la BCAO, depuis à Beauville, Gbagbo cloue définitivement le bec au régime. Voilà pourquoi sur le même sujet, l'intelligent d'Abidjan, lui, titre. Affaire BCAO, pendant la crise post-électorale ou requalification des faits, Gbagbo reconnaît une nationalisation et non un braquage. Mais, commentant ces mêmes propos du président du PPACI, le matin écrit. il y a 13 ans, Ouattara faisait échec au braquage de Gbagbo. Et faisant écho à ce dernier, le jour plus dit, à Gboville, fête de la renaissance du PPACI, les attaques en règle de Gbagbo contre Blégoudé et Ouattara. Quand, s'intéressant à un autre angle de son discours, l'Inter lui note Gbagbo, Blégoudé, le grand malaise. Vos tabloïdes de ce jour parlent aussi de Guillaume Soro, bien qu'en exil, notamment Génération Nouvelle avec cette manchette. 6 mois après avoir annoncé la fin de son exil, les signes avant-coureurs du retour de Soro à Abidjan. D'où ce titre de l'héritage. Après plusieurs années d'exil, Soro annoncé aux obsèques de Bélier. Cependant, ce possible retour donnerait quelques soucis au RHDP, selon le sursaut qui indique. Reprise du dialogue entre Ouattara et l'ex-premier ministre, Soro mélange les calculs des cadres RHDP. Et terminons notre revue des titres de vos quotidiens de ce 8 avril par la nuit du destin célébrée par les musulmans ce week-end. Nuit du destin, l'appel à la cohésion et à l'unité de Cheikh Ousmane Diakité, annonce Fraternité Matin. Ce que fait également l'intelligent d'Abidjan écrivant, Nuit du destin 2024, le Cheikh Ayman Ousmane Diakité parle des 3 leçons de la CAN 2023. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci également à vous Francis. Prochain rendez-vous, 8h. À présent, nous allons passer à l'invité de la rédaction. Notre invité ce matin, le député Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCIRDA. Avec notre invité, nous parlons des retombées sur les producteurs ivoiriens, de la hausse spectaculaire du prix du kilogramme de cacao à environ 6000 francs CFA sur le marché international. Le député Bredoumi Soumaïla répond aux questions de Constant Maïdé.
Monsieur Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI-RDA et député élu PDCI-RDA, bonjour.
Bonjour, monsieur Maïlé.
Les députés du PDCI-RDA ont exprimé leur déception après l'annonce du prix d'achat du kilogramme de cacao pour cette campagne intermédiaire à 1500 francs CFA. Alors, pourquoi vous avez marqué votre déception?
Je pense que avant même que nous exprimions notre déception, nous avons demandé au gouvernement de répercuter la hausse du prix du cacao sur le marché mondial aux producteurs ivoiriens qui sont les premiers acteurs de la production du cacao et des matières premières dans notre pays. Nous avons constaté sur le marché mondial une hausse exceptionnelle du jamais vu. Après les années 1974-1976, jamais nous n'avons vu une telle hausse qui place le cacao au-dessus de près de 4000 francs CFA le kilogramme. Nous avons donc dénoncé, nous avons estimé par nos experts qu'au moment où nous sommes en train de vendre nos cacao actuellement en deuxième campagne, le minimum qu'on devrait offrir aux producteurs c'est 2500 francs CFA. Tenant compte du fait que 60% du prix CAF devrait revenir aux producteurs.
Mais pourquoi 2500 francs CFA?
Parce que si vous prenez 60% du coût actuel se tournait autour de 2500 francs CFA. Le chef de l'État, dans sa campagne pour accéder au pouvoir, avait promis que 60% du prix CAF, c'est-à-dire le prix de vente kilogramme de cacao à l'exportation, devrait revenir aux producteurs. Et c'est pourquoi nous avons exigé cela. Malheureusement, le gouvernement n'a pas pu le faire. La pression a obligé le gouvernement à faire une augmentation, ce qui n'était pas garanti, mais l'augmentation n'est pas suffisante.
Mais est-ce qu'on connaît le prix exact du kilogramme sur les marchés mondiaux?
On parle aujourd'hui de 10 000 euros la tonne, que c'est à peu près 6 000 francs CFA le kilogramme.
Mais est-ce qu'il y a des pays, de façon plus intéressante, qui paient le cacao au kilogramme à leurs producteurs?
Le Libéria et la Guinée, qui sont des pays voisins, qui ne produisent pas autant que nous, achetaient déjà à 1500 francs CFA le kilogramme. Les informations que nous avons parlent de pratiquement le double, sinon plus, au Cameroun et à d'autres pays. Nous sommes d'accord que le mécanisme de vente par anticipation permet de stabiliser le prix du producteur. Nous sommes tous d'accord, ce n'est pas le mécanisme qui est mis en jeu, c'est la gestion des effets du mécanisme. Si vous prévoyez vendre 2 millions de tonnes de cacao, que vous mettez 80% ou 70% de ce million de tonnes, vous prenez par anticipation, vous devrez être sûr par vos prévisions que vous allez atteindre ces 2 millions de tonnes. Sinon, vous faites des défauts de vente. Et ce contrat-là vous pénalise. Vous êtes obligé donc de puiser dans la caisse de réserve pour compenser tout ce qui est contrat. Donc, il appartenait au gouvernement d'avoir une prévision de récolte aussi proche possible et d'être prudent dans la quantité de vente par anticipation. Si vous vendez 80% de 20 millions de tonnes et qu'à la fin, c'est 1 400 000 tonnes que vous produisez, vous voyez que vous êtes en difficulté. Donc, c'est une question concerne la gestion du mécanisme.
Quand il faut gérer durablement le mécanisme pour avoir la chance de mieux payer les produits en Côte d'Ivoire, le cacao notamment.
Le prix du cacao, c'est un produit qui est vendu en bourse. Donc il y a une part de spéculation. Et pour le faire, il faut avoir une veille statistique, une veille sur les productions qui vous permet de faire le minimum d'erreurs possible. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien, à travers les statistiques et les prévisions, a refusé il y a près de 5 ans de permettre au Centre national de recherche agronomie, le CNRA, de distribuer des cabosses améliorées aux producteurs. Donc, il y a eu sa première erreur. La deuxième erreur, c'est que le gouvernement n'a pas su estimer l'impact des changements climatiques sur les productions. C'est tout cela qui a amené un déficit physique du cacao sur le marché mondial et ça a fait une remontée des prix.
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant dans cette situation? 1500 francs, c'est le prix que le gouvernement ivoirien qui a été annoncé officiellement et vous, vous proposez un autre prix. Est-ce qu'il y a, lieu de trouver le juste milieu?
Mais pour une première fois, le cacao arrive à près de 4000, 5000 francs CFA le kilogramme, peut-être même 6000 francs le kilogramme et nous déplorons le fait que nous ne puissions pas avoir les retombées de ça pour nos producteurs. Ça, c'est déplorable. Nous ne sommes pas suffisamment transparents vis-à-vis des producteurs. Si nous n'avions pas crié au scandale, on n'allait même pas exposer même le barème. Et pourquoi il fixe le prix sans s'expliquer et sans faire une transparence de la gestion? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, on doit pouvoir aussi transparent possible face aux producteurs sur le prix des matières premières.
La Côte d'Ivoire est victime de son système avec la sachérie, les intrants et tout cela. C'est pour ça que les prix ne sont pas aussi importants que dans les autres pays africains.
Le problème des matières premières dans notre pays, c'est trop de retenues dans le barème. Le DUS, c'est ce qui va dans les caisses de l'État. Personne n'est ni cela.
Qu'est-ce que c'est?
Mais
que le DUS?
Le droit unique de sortie. C'est la taxe que l'État prend sur chaque kilogramme des matières premières vendues. Et cela va dans les caisses de l'État pour le développement. Mais en plus de ça, il y a d'autres taxations intermédiaires et le président Ouattara a dit que cela ne devait pas dépasser 40% du prix. Nous, nous constatons que nous avons une flambée exceptionnelle et que ça n'a pas été répercuté sur le pays au niveau où nous souhaitons. Maintenant, le gouvernement ivoirien doit justifier cela. Pourquoi? C'est leur mécanisme.
Est-ce que c'est possible qu'en Côte d'Ivoire, on aurait augmenté plus de 1500 francs, on aurait atteint 2000, 2500 francs?
Nous l'avons proposé. Ça aurait été justifié. Moi, je ne sais pas. Nous ne savons pas, nous, au PDCI, pourquoi ils n'ont pas pu aller à 2000 francs, 2500 francs. Ça aurait été justifié. Quand vous voyez toutes les retenues qui se font à partir de nos filières, mais il y a des retenues qu'on ne comprend pas.
Monsieur Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI, élu député PDCI, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Entretien qui referme cette édition, c'était bien l'entretien entre Constant Maïla et Bredoumi Soumaïla. Le député évoquait la question de la retombée sur les producteurs ivoiriens de la hausse spectaculaire du prix du kilogramme de cacao sur le marché international. C'est la fin de ce 7h, on le rappelle les titres. Le PPACI, ses militants et sympathisants ont investi la Niébitiassa samedi pour la deuxième édition de la fête de la Renaissance. Son président Laurent Gbagbo s'est exprimé sur divers sujets de la vie sociopolitique de notre pays. Puis la vague de chaleur en Côte d'Ivoire continue et inquiète dans le nord ivoirien. Précisément à Odienné, cette canicule est difficilement ressentie par la population. Vous avez pu suivre le reportage de Bakary Touré-Labasse. Et puis au Rwanda, le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Guisosi hier dimanche pour lancer la commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis avant la cérémonie officielle. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous 8h. D'ici là, retrouvez Sonia Nzian pour les Matins de la Paix.
Radio de la Paix. Mieux comprendre les enjeux.